Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va parler de cinéma et plus particulièrement du film Tout simplement noir, dont l'acteur principal vient de recevoir le César de la révélation masculine. Et puis comme tous les mardis, on va aussi faire le point sur les actualités de la semaine en France. On retrouvera aussi Christophe Mallet pour le magazine des sports. Et puis pour finir, on va s'entretenir avec Ted Gott, c'est le curateur de la National Gallery of Victoria, où une superbe exposition de peinture a lieu en ce moment. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal, on y va. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 23 mars. La côte est australienne est toujours sous l'eau. Plus de 15 000 personnes supplémentaires pourraient avoir à quitter leur foyer dans les heures qui viennent pour échapper aux inondations. L'Union européenne impose, elle, des sanctions à plusieurs hauts dignitaires de la junte birmane, mais aussi à 4 officiels chinois. Et puis le Parlement américain examine pour sa part en ce moment le statut de sa capitale, Washington DC, dont les 700 000 habitants ne sont pas représentés ni au Congrès ni au Sénat. Et on commence donc tout de suite avec ces inondations actuellement en cours en Nouvelle-Galles du Sud et aussi d'ailleurs dans le sud du Queensland. 15 000 personnes de plus pourraient être contraintes de quitter leur domicile alors que dans certains endroits, le niveau de l'eau continue de monter et la météo par ailleurs, pour l'instant, reste épouvantable. D'après la première ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, ce sont en particulier les personnes résidant à proximité des rivières Colo et Hawkesbury qui sont concernées. Mais aussi, c'est difficile sur la North Coast, en particulier autour de la ville de Grafton. Écoutez-la.
The south coast of New South Wales is also an area of concern with heavy rainfall expected today and we will be watching that as well. But my strongest message to everybody is please just listen to the advice. If you have been asked to be on alert for evacuation, please get together your precious belongings, make sure you are safe and make sure you're ready to leave at very short notice. And that's really, really important. And I'm just grateful to all the workers, all the volunteers, all our frontline people who have saved lives.
Et puis, comme vous le savez, plus de 18 000 personnes ont déjà été évacuées depuis le début de ce week-end. 3 000 d'entre eux viennent du nord-ouest de Sydney, mais la plupart des autres habitent cette fameuse Mid-North Coast. Pour eux, ces pluies torrentielles sont une véritable catastrophe. Écoutez ces deux témoignages de sinistrés.
I think I've lost everything. I didn't bring my false teeth. I didn't bring nothing with me, only my medicines because they said they'd take me to hospital.
And there wasn't anything we could do. We had all our animals upstairs. We had to move everything we could upstairs. And there was no warning. We couldn't get too much.
Et puis si certains d'entre vous ont été affectés par ces intempéries, sachez que le Conseil australien de l'assurance a déclaré une bonne partie de l'État de Nouvelle-Galles du Sud en état de catastrophe naturelle. Ça signifie que les sinistres seront traités en priorité par les assureurs, qui ont déjà d'ailleurs reçu beaucoup d'appels, plus de 2100 pour l'assureur IAG et plus de 1300 pour Suncorp. Allez, on prend maintenant la direction de Canberra, où le Premier ministre Scott Morrison vient d'annoncer avoir identifié et fait licencier un employé ministériel considéré comme l'auteur d'une nouvelle série de scandales sexuels. La chaîne 10 News a diffusé cette semaine des images et des vidéos dans lesquelles on peut voir cet individu, mais aussi certains de ses collègues qui sont en train de simuler une masturbation tout en étant assis sur le bureau de certaines de leurs collègues féminines. Pour le ministre des Finances, Simon Birmingham, ces révélations sont tout simplement horrifiantes.
I'm disgusted and appalled at what I see alleged in relation to that story. It shows a complete disregard for all that our parliamentary democracy stands for. It also demonstrates an enormous disrespect.
Et Marie Spain, qui était le ministre à l'égalité homme-femme, juge pour sa part ces comportements totalement inacceptables.
The behaviours of perpetrators, which are beyond unacceptable, and will hopefully be dealt with through appropriate legal processes, must stop. And the only way they will stop in this building is if the members and senators of this building make that happen.
International maintenant, en Syrie, dimanche, 6 personnes, parmi lesquelles un enfant de 10 ans, ont été tuées dans le bombardement d'un hôpital à Alep. Une attaque jugée extrêmement préoccupante par le représentant de l'ONU dans la région, Mark Cutt.
Now that's very worrying because that's the area that has the highest concentration of displaced people. Many of the camps are in that area, about a million people in camps around that area. They are highly vulnerable when airstrikes and shelling happen. It's also the area where many of the humanitarian organizations have offices and warehouses. They put their warehouses and offices there, thinking that that was the safest part of Idlib. So when that starts coming under attack, it's extremely worrying.
L'Union européenne vient pour sa part d'annoncer des sanctions visant le chef de la junte birmane, mais également 9 autres hauts gradés du régime. Ils ne pourront donc plus se rendre en Europe et s'ils y détiennent des avoirs, ils seront tout simplement gelés. Un premier pas, mais trop tardif et qui ne va pas aller assez loin, alors que plus de 250 personnes ont été tuées et 2600 autres emprisonnées depuis le début de ce coup d'État. Pas assez loin et trop tardif, c'est donc l'avis de Joëlle Garriaud-Mellam. Elle est sénatrice des Français de l'étranger.
Je suis extrêmement déçue parce qu'il a quand même fallu à l'Union européenne 50 jours pour prendre des décisions qui avaient été déjà prises par les Américains et les Britanniques. Alors certes, il y a un an de plus et ça quand même très important que nous ayons décidé de sanctionner le président de la commission électorale parce qu'il faut bien dénoncer cette espèce de malversation lamentable qu'ils se préparent à faire dans leur intérêt. On ne peut pas manipuler un processus électoral et donc il était très important de sanctionner aussi ce président de la commission électorale. Il fallait que ces sanctions englobent toute la famille, y compris les enfants. Parce que ça, c'est très important en Birmanie. Et les enfants de la junte militaire étudient à Singapour ou aux États-Unis. Et là, je crois que ça aurait eu une portée un peu plus importante. Mais c'est déjà un premier pas, il fallait le faire, mais malheureusement, nous sommes très en retard. Ces sanctions, il fallait les prendre dès le début.
Et les sanctions, l'UE vient également d'en imposer à 4 officiels chinois. Ils opèrent dans la région du Xinjiang, à l'ouest de la Chine, et sont accusés de participer à la répression de la minorité ouïghour. La Chine a répliqué en imposant également des sanctions visant une dizaine d'Européens, des fonctionnaires, mais également quelques élus du Parlement. Pour Josep Borrell, en tout cas, le haut représentant de l'Union européenne, il s'agit pour Bruxelles de défendre les droits de l'homme.
We are made aware during the meeting that China has retaliated to those sanctions and rather than change its policies and address our legitimate concerns, China has again turned a blind eye and these measures are regrettable and unacceptable. There will be no change in the European Union determination to defend human rights and to respond to serious violations and abuses, as I said, irrespective of where they are committed.
Pendant ce temps-là, aux États-Unis, les législateurs se penchent sur la capitale, Washington DC, et son statut très particulier. Les 700 000 habitants de la ville peuvent depuis quelque temps voter pour l'élection présidentielle. En revanche, ils ne sont pas représentés ni au Sénat ni au Congrès, car eh bien, le district de Columbia, où se trouve la capitale, est un district fédéral et non pas un État. C'est pourquoi, pour l'instant, ces personnes ne sont pas représentées politiquement. Alors, c'est justement ce que souhaiteraient changer les démocrates qui viennent d'ouvrir le débat. Mais les élus républicains, eux, ils sont très farouchement opposés. Ludivine Gulli, une spécialiste des États-Unis, a expliqué pourquoi au micro de Radio France Internationale.
C'est une question très simple et c'est ce qui explique que les Washingtoniens n'aient pas réussi jusqu'à présent à obtenir le droit de vote. C'est que la ville de Washington, depuis qu'elle vote aux élections présidentielles en 1964, vote très largement démocrate. Donc, si le Congrès, par un vote, attribue à Washington un député et deux sénateurs, ce serait un député démocrate et deux sénateurs démocrates. Et comme les majorités sont extrêmement serrées actuellement, les républicains n'en veulent absolument pas. Et le problème, c'est que au Sénat, selon les règles de procédure actuelles, la minorité peut bloquer par un système d'obstruction parlementaire qui s'appelle le filibustering. Cette obstruction ne peut être renversée actuellement que par une majorité qualifiée de 60 voix, dont les démocrates ne disposent pas. Et donc, il faudrait que les démocrates décident de changer l'usage du Congrès pour interdire le blocage par la minorité. Et le problème, c'est que s'ils font ça, ils changent une tradition très forte de la vie politique américaine et donc ce n'est pas une décision qu'ils prendront à la légère.
Hier lundi, c'était un triste anniversaire en Belgique puisque c'était il y a tout juste 5 ans qu'ont eu lieu les attentats de Bruxelles. Pour l'occasion, le roi et la reine ont rendu hommage hier aux 32 victimes de ces attaques qui se sont déroulées dans le métro de Bruxelles, mais aussi à l'aéroport. C'est justement là, à l'aéroport, qu'ont débuté les commémorations hier. La famille royale était accompagnée du Premier ministre Alexandre De Croo.
I would like to conclude with the words of the American writer Irving Washington. And I quote, "There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are the messengers of overwhelming grief, of deep contrition, and of unspeakable love."
L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, vient de publier un rapport à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau qui nous appelle tous à adopter une gestion beaucoup plus prudente et surtout beaucoup plus durable de cette ressource dont nous avons tous besoin. C'est, d'après l'ONU, absolument essentiel si nous souhaitons atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui ont été fixés ces dernières années.
Il est essentiel de reconnaître, de mesurer et d'exprimer la valeur de l'eau et d'en tenir compte dans les prises de décision. Ainsi débute le rapport des Nations Unies, car contrôler la manière dont est établie la valeur de l'eau, c'est contrôler son utilisation. Une gouvernance équitable des ressources repose essentiellement sur les valeurs que l'on attribue à l'eau, suivant une variété de points de vue, allant de l'usage domestique aux croyances coutumières et religieuses, ou encore à la valeur du maintien des cours d'eau pour préserver la biodiversité et aux droits humains fondamentaux. Or, l'évaluation de la valeur de l'eau, qui est utilisée pour orienter les décisions politiques et les investissements financiers, est avant tout comptable et économique. Mais dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et d'inégalité d'accès, même s'il faut s'attendre à ce que des dimensions si diverses de la valeur de l'eau soient compliquées à évaluer, il serait néanmoins nécessaire de trouver des compromis afin de les intégrer dans les processus de décision.
Et pour finir, on fait un point sur la météo du jour. Toujours, vous le savez, de très fortes précipitations sur une bonne partie de la côte est australienne ce mardi, en particulier à Sydney, à Wollongong, à Newcastle, bref, un peu partout en Nouvelle-Galles du Sud. Attendez-vous dans cette région à un véritable déluge. Côté température, en revanche, on sera dans cette partie du pays autour de 21 degrés. 21 degrés aussi à Melbourne, où on attend également des averses dans la journée. 18 degrés à Canberra, où le temps là aussi va être très humide aujourd'hui. Quelques degrés de plus en revanche à Brisbane avec 24 degrés, 25 degrés à Adélaïde et 26 à Perth où le temps dans ces deux villes aujourd'hui est nuageux. En revanche, on a un peu de soleil à Cairns où il fait 33 degrés et puis 32 degrés à Darwin où le temps sera aujourd'hui beaucoup plus orageux. Pour ce qui est de la Nouvelle-Galles du Sud, je précise par ailleurs qu'on s'attend à une nette éclaircie demain, on pourrait même avoir un petit peu de soleil.
Journal des sports, et on commence avec du football et la Ligue 1 de ce week-end. Match avancé vendredi, Saint-Etienne recevait Monaco et une cinglante défaite pour les Verts, 4-0 donc pour les Monégasques. Rennes est allé battre Metz sur leur terrain 3-1, Nice recevait Marseille, l'Olympique de Marseille, et les a battus 3-0 dans un derby du Sud. Lens qui est allé battre Strasbourg chez eux sur le score de 2-1, Montpellier bat Bordeaux 3-1, match nul 0-0 entre Brest et Angers, Reims est allé battre Dijon chez eux 1-0, match nul entre Nantes et Lorient 1-1, Nîmes qui est allé battre Lille chez eux donc dans le Nord sur le score de 2-1, et le Paris Saint-Germain qui s'était déplacé à Lyon et qui a battu l'Olympique Lyonnais sur le score de 4-2 au classement. Eh bien, ça veut dire que le Paris Saint-Germain reprend la tête à égalité de points avec Lille, 63 points devant Lyon, 60 points, Monaco est 4e, 59 points, Lens est 5e, 48 points, l'Olympique de Marseille est 6e avec 45 points en bas de classement, Lille est 18e avec 29 points, Nantes est 19e avec 28 points, et Dijon ferme la marche, lanterne rouge de ce classement donc, avec 15 points. On parle encore une fois de football, et vous le savez peut-être, si vous êtes fan du Paris Saint-Germain, eh bien, au prochain tour de la Ligue des Champions, eh bien, les Parisiens affronteront leur bourreau de la finale de l'année dernière, le Bayern de Munich, ce qui ne fait pas peur à l'entraîneur Pochettino.
Nous n'avions pas de préférence pour le tirage. Nous savions que ce serait difficile. Il y a toujours des surprises. Ce qui est sûr, c'est que nous allons affronter l'équipe la plus forte, celle qui nous a battus en finale la saison dernière. Le Bayern est le champion en titre. Il faut prendre ce tirage avec optimisme et je pense que l'équipe va s'en sortir, va rivaliser. Nous avons battu Barcelone. Notre objectif est désormais de battre le Bayern Munich.
Voilà donc pour le football. Pour aujourd'hui, allez, un mot de cyclisme pour conclure ce journal. Et la 100e édition de la Volta Ciclista à Catalunya qui a débuté avec une surprise, la victoire du Danois Andreas Krohn.
It's fantastic. It's my first World Tour stage race and my first World Tour stage win.
Voilà donc Andreas Krohn, victorieux de la première étape de la Volta Ciclista à Catalunya, que vous pouvez d'ailleurs suivre en intégr tous les soirs sur SBS Viceland. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec le reste du programme. A tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, maintenant, on va prendre la direction de Paris. C'est l'heure des actualités de la semaine en France.
Radio SBS.
Et comme chaque mardi, place à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso depuis Paris. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, la situation sanitaire et le nouveau confinement imposé à une partie des Français.
Oui, 16 départements en tout sont soumis à ce confinement qui va durer au moins un mois. Cela concerne en gros les départements du nord de la France, toute l'Île-de-France, donc Paris, et dans le sud, le département des Alpes-Maritimes. Alors ce n'est pas le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est chargé directement de l'annoncer aux Français, mais une conférence de presse jeudi dernier, menée par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Ce confinement, c'est le troisième du nom, même si Jean Castex n'a pas prononcé le mot, et que dans les faits, on va le voir, il ne ressemble en rien au premier confinement, très strict, d'il y a un an. Là où les Français, pendant deux mois, n'avaient le droit de sortir qu'une heure par jour dans un rayon d'un kilomètre et pour faire des courses ou juste prendre un peu l'air. Il ne ressemble pas non plus, ce nouveau confinement, à celui d'un mois et demi en novembre-décembre dernier, dans la mesure où là, dans les 16 départements concernés, pour l'instant, la mesure pourrait s'étendre à d'autres départements dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous avez le droit, dans l'absolu, entre 6h du matin et 19h, d'être dehors, autant que vous le voulez. Il n'y a pas de limitation de temps. En revanche, il vous faut une attestation, que ce soit via votre smartphone ou la version papier que vous remplissez. Vous devez pouvoir justifier, lorsque vous êtes à l'extérieur, de la raison pour laquelle vous êtes dehors, vous promenez, faire vos courses, promener votre chien, aller à un rendez-vous médical, etc. Mais la grande idée, une des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement, c'est d'éviter les rassemblements. Et finalement, on renverse presque les choses, la pyramide, si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, où on dit aux Français, vous êtes mieux dehors, alors tout seul, on ne sort pas en groupe, mais vous avez le droit d'aller vous promener toute la journée, plutôt que d'être confiné chez vous, en famille, ou bien avec des amis, ou même confiné au travail. Évitez les mouvements géographiques. Également, c'est la grande idée des nouvelles mesures. En Île-de-France, dans le nord, là où le virus circule le plus, vous devez, avec les nouvelles restrictions, rester dans un rayon de 10 km. Donc, en gros, les Parisiens, durant un mois, ils n'auront pas le droit de quitter Paris. La grande contrainte, elle est là. Et d'ailleurs, on a vu avant samedi et la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, les trains qui ont été pris d'assaut pour partir en Bretagne et le long du littoral atlantique où là il n'y a pas de circulation aussi vive du virus. En tout cas, ces 10 km vont de pair avec la fermeture d'un nombre important de commerces. On retrouve cette notion où seuls les commerces dits essentiels reste ouvert. Les petits commerçants vont donc de nouveau devoir baisser leur rideau, même si la liste des dérogations a été élargie. Les coiffeurs, par exemple, touchés par les deux premiers confinements, vont pouvoir rester ouverts. Les coiffeurs qui basculent du côté des commerces considérés comme essentiels.
Alors, comment sont perçues ces nouvelles mesures dans les régions concernées, Émile ?
Eh bien, oui, forcément, il y a beaucoup de lassitude. Les Français sont même un peu perdus dans toute cette communication de l'exécutif. Si le gouvernement impose à 21 millions de Français, car il y a dans les zones concernées, on l'a dit, toute l'Île-de-France. L'Île-de-France, et c'est plus de 10 millions de personnes, 16 départements, 21 millions de Français, un tiers de la population au total concernée. Si le gouvernement s'est résolu à durcir de nouveau le dispositif, c'est qu'il n'a plus le choix. On se souvient du pari du président Emmanuel Macron fin janvier, quand tous les scientifiques, médecins estimaient qu'il fallait reconfiner la population. Le chef de l'État avait pris le contre-pied, il ne l'avait pas fait, il s'est contenté fin janvier de confirmer le couvre-feu et de l'abaisser partout dès 18h, mais pas de confinement, et cela n'a pas suffi. Le plateau, les quelques 20 000 nouveaux cas Covid-19 par jour en France de décembre, janvier, février, eh bien ce plateau, désormais, il tourne autour des 30 000 nouveaux cas positifs chaque jour. Les variants, notamment le variant anglais, est majoritaire, il se diffuse, on le sait, plus vite. Et donc, dans le Nord, en Île-de-France, les lits de réanimation dans les hôpitaux ne sont pas loin de la saturation. Il y a 10 jours, le gouvernement semblait encore repousser l'idée d'un nouveau confinement, avec des effets d'annonce comme quoi des centaines de malades allaient être transférés de l'Île-de-France vers d'autres régions pour essayer de tenir tant bien que mal. Mais cette mesure, elle n'a pas pu être tenue. Les familles des malades refusant de voir leurs proches ainsi transférés à des centaines de kilomètres. Bref, un nouveau confinement qui s'impose un an après le premier. Les effets de la vaccination, qui ne sont pas encore suffisants, ils ne se font pas sentir sous la dynamique des contaminations. En revanche, ce qui se fait sentir, c'est la courbe de popularité du chef de l'État. Elle commence à s'effriter, les instituts de sondage le montrent, même si à un an de la prochaine élection présidentielle, 2022, la cote de popularité d'Emmanuel Macron reste relativement élevée en comparaison de ses prédécesseurs, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, quand ils en étaient au même stade de leur mandat. Mais l'exécutif, oui, commence à être touché, comme le disent les sondeurs, les instituts de sondage, à être touché en plein cœur par cette pandémie qu'il ne parvient pas, le gouvernement, à stopper. D'ailleurs, l'opposition ne se prive pas pour tirer à boulet rouge sur les nouvelles mesures. Le confinement, c'est ce qu'on fait quand on a tout raté, a lancé par exemple Marine Le Pen, leader de l'extrême droite, ou plus surprenant, le chef de la droite classique, le parti Les Républicains, car il y a quand même quelques convergences d'idées entre La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron et Les Républicains. Mais Christian Jacob, lui, fustige le chef de l'État, Emmanuel Macron. Il parle d'un chef de guerre défaillant et il ajoute, Christian Jacob, assez cinglant, « Le gouvernement nous annonçait 15 millions de personnes vaccinées au printemps. Nous y sommes, au printemps, et seules 2 300 000 personnes ont été vaccinées. »
Alors, il faut préciser tout de même que les écoles restent ouvertes partout, même dans les départements reconfinés.
Oui, depuis septembre, c'est une ligne rouge que le gouvernement ne veut absolument pas franchir, refermer les écoles. Là, une adaptation est demandée dans les lycées qui vont passer en demi-jauge, c'est-à-dire que chaque jour, dans un établissement, dans un lycée, la moitié des élèves seulement pourra venir physiquement à chaque établissement de s'organiser. Mais pas question de fermer stricto sensu les collèges, les lycées. Cela a été le cas durant le premier confinement, il y a un an, et les conséquences, on le ressent encore aujourd'hui, ont été terribles, avec des décrochages scolaires manifestes, importants, une inégalité des enfants, des jeunes dans l'accès au numérique pour travailler depuis chez soi. Pas question donc de renvoyer les enfants chez eux. Déjà, on les prive de toutes leurs activités extrascolaires, tout ce qui est associatif, culturel, sportif. Là, les associations sont à l'arrêt. Simplement, on demande à chaque établissement, d'adapter au mieux les protocoles sanitaires en demandant, par exemple, à ce que ceux qui le peuvent ne restent pas à la cantine, lieu de contamination, la cantine. Et dans le même ordre d'idées, à l'échelle des adultes, vous avez le monde de l'entreprise, où là, le discours est un peu différent. Jean Castex, Premier ministre, a haussé le ton. La semaine dernière, il a rappelé que dans les régions les plus touchées par le virus, le télétravail devait être la règle et la présence sur site l'exception. Or, il s'avère que les entreprises ne respectent pas vraiment les recommandations en la matière du gouvernement. Plus d'un tiers des entreprises en France n'auraient pas véritablement mis en place le télétravail. Des directives ont donc été envoyées aux préfets par le gouvernement pour qu'ils durcissent les contrôles, car l'entreprise, c'est indéniable, est un lieu de contamination entre les bureaux partagés, la restauration d'entreprises et autres discussions, même avec le masque à la machine à café.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu française pour nous cette semaine.
Merci, à bientôt.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
On va maintenant prendre la direction de Melbourne parce qu'il vous reste encore une petite semaine pour aller à la National Gallery of Victoria où on a en ce moment une sublime exposition d'œuvres de peintres impressionnistes français. Et pour en discuter, on a avec nous Ted Gott, c'est le curateur de la NGV.
J'ai le plaisir d'avoir Ted Gott, qui est le Senior Curator for International Art à la Galerie Nationale du Victoria, the National Gallery of Victoria. Bonjour Ted et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Jean-Noël et merci bien.
Et on parle des Winter Masterpieces French Impressionism de cette année. C'est une exposition d'une centaine d'œuvres des impressionnistes en partenariat avec The Museum of Fine Arts de Boston. Racontez-nous ce que nous allons voir en Australie.
On va voir une centaine de peintures et une douzaine de fortes et de lithographies par tous les artistes associés avec le mouvement impressionniste. On va voir aussi quelques artistes qui travaillaient avant les impressionnistes. Donc, l'exposition commence avec l'école Barbizon. Et il y a une galerie de peintures de Théodore Rousseau, de Corot, de Diatla Peña. Et après ça, il y a une salle dédiée à Eugène Boudin, qui était le premier maître de Claude Monet. Donc, en effet, l'exposition montre les pas envers l'impressionnisme aux années 1870. Et après ces deux galeries qui ouvrent l'exposition, on plonge entièrement dans le milieu des impressionnistes eux-mêmes avec des peintures éblouissantes de Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, bien sûr. Pour les femmes artistes, il y a Mary Cassatt et Berthe Morisot, Camille Pissarro, bien sûr. Mais il y a aussi des artistes qui travaillaient avec, mais qui ne furent pas entièrement liés avec les impressionnistes, c'est-à-dire le vieux maître Édouard Manet, Henri Fontaine-Latour. Ces deux artistes furent des amis des impressionnistes, mais n'exposaient avec eux dans leur exposition au milieu du 19e siècle. Mais ils étaient des précurseurs des impressionnistes eux-mêmes. Donc, j'ai dit, il y a une centaine de peintures. Ce qui est absolument extraordinaire pour nous, c'est que de cette centaine de peintures, 79 peintures n'ont jamais visité l'Australie en avant.
C'est une première.
Donc, c'est extraordinaire. Donc, c'est tellement surexcitant, car on prête toujours des œuvres d'art à travers le monde. Donc, aucun surprise si on a vu certaines des peintures de Boston ici à Melbourne ou à Sydney ou à Canberra il y a plusieurs années dans d'autres expositions. Mais avoir 79 peintures qui n'ont jamais visité l'Australie, c'est absolument éblouissant pour nous. Donc, en effet, on peut penser, oh oui, French Impressionism, je le connais. Non, vous ne le connaissez pas, car vous n'avez jamais vu ces peintures si vous n'avez pas visiter Boston. Et maintenant que nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons plus visiter Paris. Malheureusement, on ne peut pas visiter les États-Unis, mais voilà que Paris et Boston arrivent ici à Melbourne. Donc l'exposition ouvre le 4 juin et ça finit le 3 octobre.
Tout à l'heure, vous aviez mentionné une artiste, je crois, américaine, Mary Cassatt.
Oui.
Qui est-elle?
Elle était une artiste qui venait des États-Unis, habitait à Paris au commencement des années 70. Elle est devenue une grande amie d'Edgar Degas et elle était là au commencement du mouvement impressionniste. Elle participait dans les expositions, les impressionnistes qui ont commencé avec l'exposition célèbre qui a eu lieu à Paris en 1874. Ça, c'était la première exposition des impressionnistes. Et Mary Cassatt fut là. Et elle participait avec le mouvement jusqu'à sa fin. Il y avait en effet 8 expositions impressionnistes entre 1974 et 1986. Et Mary Cassatt était absolument au centre de l'exposition, mais très important pour l'histoire de l'impressionnisme en outre de la France, c'était Mary Cassatt qui a conseillé des collectionneurs aux États-Unis d'acheter les œuvres de ses amis. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les expositions à Boston, à Chicago, à New York sont absolument pleines des peintures impressionnistes, car c'était Mary Cassatt qui fut ambassadeuse pour le mouvement aux États-Unis.
J'imagine qu'il faut réserver dès maintenant, parce que il y aura une limite de gens que vous allez pouvoir accueillir chaque jour.
Oui, oui, oui. Malheureusement, à cause de ce virus maudit, on doit limiter le nombre des personnes qui peuvent visiter chaque jour. Donc, on vous conseille de réserver vos places. Et malheureusement, l'exposition est à payer. Toutes les expositions ne peuvent pas être absolument gratuites, mais ça va absolument
relancer le monde de la culture.
Oui, 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 oui. Donc, en effet, le prix de cette exposition, c'est absolument your money's worth.
Oui, oui, absolument. Absolument. Donc, on encourage les gens à réserver dès maintenant. Ted, merci beaucoup d'être intervenu sur SBS French et on se reparle très prochainement au début du mois de juin.
Volontiers, volontiers.
À bientôt.
Bonne continuation, à la prochaine. Merci Jean-Noël.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et ça, c'était le morceau Molotov 4 du rappeur d'Aulnay-sous-Bois, Sefiou. Place maintenant au cinéma. On en parle tout de suite avec notre spécialiste maison, Laurent Auclair. Et on va parler plus précisément d'une comédie française qui vient d'apparaître cette semaine dans le catalogue Netflix. Il s'agit du film Tout simplement noir.
Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de cinéma et pour ça on retrouve notre expert maison, Laurent Auclair. Bonjour.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler du film français « Tout simplement noir ». Il est sorti il y a quelques jours sur Netflix. Et le week-end dernier, en fait, l'acteur et qui est également un réalisateur a reçu la révélation masculine de l'année au César. Du coup, on avait envie d'en parler avec toi, Laurent. En quelques mots, c'est quoi l'histoire de ce film ?
Alors c'est une histoire, c'est un faux documentaire en fait qui reprend le vrai personnage de Jean-Pascal Zadi puisque c'est le nom du réalisateur et qui est aussi acteur donc est un noir qui vit en France et vraiment on sait à peu près tous que c'est pas forcément facile et il décide de créer un mouvement de protestation et de faire une manifestation à Paris qui va partir bien sûr de la République puisque c'est de là que partent toutes les grandes manifestations à Paris mais qui va être limitée seulement aux hommes noirs et donc il décide d'aller voir un petit peu tous ses amis dans le milieu du show business. Il a la chance de connaître quelques comédiens et comédiennes de stand-up et il essaye de les faire participer, de leur faire qu'ils annoncent son mouvement sur leurs réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, il s'y prend tellement mal que tout le monde voit les contradictions de la limitation de son propos. Et ça donne finalement alors une comédie très très corrosive. Hein. C'est un petit peu c'est un petit peu abrasif au départ. On se demande si c'est du lard ou du cochon, comme on dit en français. Et finalement, ça montre avec une belle naïveté très maîtrisée, je trouve, une critique de la société française et de notre refus de justement de traiter ces problèmes d'ethnicité, d'identité et de discrimination qu'on a en France et malheureusement un peu partout dans le reste du monde.
Alors effectivement, c'est vraiment le cœur du sujet et ça donne lieu à plein de scènes assez drôles, hein, il faut le dire, avec beaucoup d'acteurs connus effectivement et de personnalités. On voit Joe Starr, Eric Judor, Fabrice Eboué, Ramzy également d'ailleurs, enfin beaucoup de célébrités. Mais au-delà de la dénonciation de la situation pour la communauté noire en France, je trouve ce film il montre aussi les contradictions qu'il y a au sein de ceux qui veulent changer cet état de fait.
Oui, c'est vrai, et c'est ça qu'il traite, je trouve, avec une grande justesse, c'est que et lui-même d'ailleurs au départ, et c'est pour ça que c'est sans doute un petit peu difficile de rentrer dans le film parce qu'il a une sincérité quelque part qui est assez atroce à écouter parce que effectivement lui considère que il y a différents types de noirs et que lui fait partie des vrais noirs et que tout ce qui va être des nuances de couleurs entre métissages différents, alors que lui-même est né en France, donc il est vraiment pas, il se revendique comme africain, mais son père est africain, lui est né en France complètement, et donc il mêle complètement ces idées de réécriture d'histoire un petit peu qui sont tellement à la mode en ce moment. Pour justement justifier son propos et de dire finalement on ne sait pas de quoi on parle quoi. Quand on essaye et à chaque fois qu'on essaye d'attaquer cette question, on se limite à un petit bout de l'histoire qui est généralement notre histoire personnelle et on n'arrive pas à voir le gros du problème qui en découlerait et ça donne des scènes. Alors je dois dire qu'il y a quand même quelques scènes. En particulier la scène avec Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste, où les différences de leur couleur de peau et de leurs origines et de leur revendication de la question noire donnent lieu à une altercation à la sortie d'un restaurant qui m'a beaucoup fait rire. Alors je pense que c'est aussi ça l'intérêt de ce film, c'est que en tant que spectateur on est face à des questions extrêmement graves, finalement, parce qu'on parle de l'identité, on parle de discrimination, et on en rit tellement qu'on est presque coupable d'en rire. Et ça fait beaucoup de bien. Je pense que c'est aussi un des succès de ce film, et c'est pourquoi il a beaucoup marché. Il faut dire qu'en France, il est sorti au mois de juillet, alors que la France sortait du premier confinement qu'ils ont eu, qui était assez dur. Et la réouverture des cinémas après 2 ou 3 mois de fermeture, les gens n'avaient qu'une envie, c'était d'aller rire, quoi.
Ce film aussi, il y a une autre révélation derrière l'acteur principal, c'est Farid, le comédien de stand-up qui là apparaît pour la première fois dans un film. Et contrairement à la plupart des autres personnalités qu'on voit dans ce film, et on en voit beaucoup, c'est que lui, il a vraiment un rôle secondaire. On le voit tout au long du film avec Jean-Pascal Zadi.
C'était sans doute pour lui le plus difficile des rôles du film parce que, bon, à part Jean-Pascal qui joue un petit peu une caricature de son propre personnage, mais Farid, c'est sans doute le seul personnage le plus fictionné de ce film parce que on lui donne vraiment une direction à prendre pour accompagner Jean-Pascal dans son aventure et pour lui faire rencontrer les gens du showbiz, donc c'est pour ça qu'il l'emmène à une fête chez Joe Starr où Jean-Pascal ne peut pas s'empêcher d'insulter des gens qui sont là, ce qui donne aussi une très très belle scène. Et je trouve que, j'avais beaucoup aimé le. Il y a un ou deux spectacles de Farid qui sont justement sur Netflix ici et qu'on peut voir. Et c'est vrai que c'est bien. Moi, j'aime bien me tenir au courant un petit peu de ce qui se passe surtout sur le stand-up en France. Et c'est bien d'avoir Netflix nous en donne quelques-uns de temps en temps. Et Farid était un de ces spectacles. J'avais bien aimé son côté. Il est aussi assez abrasif dans son humour. Et je trouve que là, de passer justement sur un personnage qui est lui sans être lui, qui est vraiment une dérive sans être une caricature, je trouve qu'il s'en sort très très bien et il nous permet, enfin moi en tout cas, il m'a vraiment permis de complètement rentrer dans le film et de voir le personnage de Jean Pascal sous un autre angle. Il a été un peu le catalyste que j'attendais dans le film pour que ça prenne vraiment une nouvelle matière, entre guillemets, après un début un peu potache, un peu trop caricatural à mon goût, qui m'avait mal permis de rentrer directement dans le film à la première minute.
Ok, ben merci beaucoup Laurent. Donc effectivement, le film est disponible en Australie sur Netflix, comme certains spectacles de Farid, comme tu l'as précisé Laurent. Merci Laurent, merci beaucoup.
Ben, pas de problème, merci beaucoup.
Je suis noir.
Grand.
Voilà. Je suis noir.
Martin Luther King.
Je suis nègre.
Malcolm X.
Je suis un putain voilà. de nègre.
C'est ça.
Il faut qu'on soit soudés.
Ta marche, c'est une initiative de dingue.
Quelle marche?
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits.
On va dire interdits, mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas conseillés pour se faire frapper.
Ouais. Non, ils vont pas se faire frapper du tout.
Nous, mais il y aura pas une bonne ambiance.
C'est hyper excluant.
On a des imams qui soutiennent.
Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe.
Quoi?
Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams, on va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance.
Nuée de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si on pleuvait.
De l'amour.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau de la belle Mayra Andrade qui s'intitule « Comme s'il en pleuvait ». Nous, on se retrouve jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, vous pouvez bien sûr continuer à nous écouter en podcast en allant tout simplement sur notre site SBS French. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme de streaming audio préférée. Passez un excellent après-midi et surtout, restez au sec.
Perdu de mémoire d'un mot d'apôtre qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant. Réalaya, mots doux et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.